Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter aussi sur le site internet www.rdwa.fr et aussi sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, au studio, nous sommes avec Nikita Gouezel. Bonjour.
Bonjour Yves.
Nikita, tu es avec nous pour nous parler de ton nouveau film ou ta nouvelle vidéo. Comment peut-on dire aujourd'hui ?
Eh bien, moi j'appelle ça un film.
Voilà, et qui s'intitule « Pour moi et plus que moi ». Ouais. Dans le titre, l'éperluette a une importance pour toi ou c'est juste un aspect esthétique ?
C'est esthétique, ouais, c'est purement esthétique. Je trouve ça joli. Et puis je trouvais ça trop long avec le « et », alors qu'avec l'éperluette, comme tu dis, c'est plus graphiquement, ça parle plus à l'œil, je trouve.
Alors, un court-métrage, hein, puisqu'il dure 47 minutes, et qui est axé autour de la fabrication de carter et aussi dans le milieu forestier.
C'est ça. En fait, on va dire que le principal tourne autour des carters, ces fameuses habitations en chanvre et chaux. Mais le principe d'une carter, c'est qu'on la construit pas en plein milieu d'une ville aussi, c'est qu'on la construit dans la forêt, dans un milieu naturel qui permet en fait d'avoir une philosophie de vie plus proche de la nature. Et donc c'est ce genre d'habitat se mêle à la nature plutôt que, tu vois, de tout raser et de construire ta maison et de déstructurer le sol. Là, il n'y a aucune déstructuration du sol. On peut faire un hérisson ou un drain, mais ce n'est pas obligatoire selon le type de sol qu'on a sur notre terrain, sur son terrain. Mais voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est de ne pas, afin d'affecter la nature le moins possible, que notre présence se remarque le moins possible, quoi, qu'on s'intègre dans le paysage.
Ce film, c'est une enquête aussi sur un mode de vie, c'est aussi un autre regard sur la société, ouais. Et dans les bois même, hein, ça se passe souvent en sous-bois, dans les forêts, un autre monde aussi qui est là.
Ah oui, complètement, c'est dans ce genre de circonstances qu'on se rend compte qu'on fait partie de ce tout. Et de vivre dans ce tout au milieu sans être dans un milieu aseptisé comme souvent on voit aujourd'hui. On est complètement coupé du sol même, on marche pas sur notre sol, on marche sur du béton, alors que là, de vivre au contact même de la terre et de dormir avec la terre, mais ça change complètement notre rapport au monde, en fait. De dormir avec la terre, Evelyne Adam en parle dans le film, elle, quand elle dort pas avec la terre, elle est fatiguée, elle se sent complètement déconnectée, déracinée. Et puis c'est totalement ce qui se passe, en fait, c'est qu'on s'est enfermé dans des boîtes qui avaient rien à voir avec nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, notre première maison, le ventre de notre mère, je veux dire, il est pas carré, quoi. Et du coup, pourquoi on habite dans des boîtes, pourquoi on habite dans des cases? C'est ça, en fait. J'ai juste envie de poser cette question aux gens quand ils voient la... Puis bon, elle est intrinsèquement posée, c'est dans l'image que je la pose. C'est-à-dire, pourquoi on vit pas dans du rond ? Pourquoi on vit pas dans quelque chose qui nous ressemble plus ?
Carter, c'est un mobilier, enfin une habitation en pleine nature, certes. Il n'y a aucun apport énergétique, hein, ou il peut être autonome plutôt.
Ouais, alors là, il travaille. En fait, c'est une recherche permanente qui se passe là-bas, en tout cas sur le lieu des carters en Bretagne. Et puis bon, il y en a partout dans le monde maintenant des carters, mais c'est une recherche permanente d'autonomie et de mieux, en fait. Donc là, ils ont des panneaux solaires, ils ont des récupérateurs d'eau, mais dans l'idéal, ce qui vise, en tout cas ce que certains visent en construisant une carter, c'est l'autonomie énergétique, alimentaire, voilà, et l'impact, de minimiser notre impact en tant qu'être humain sur la planète Terre, quoi.
Les carters, donc, c'est une bulle en quelque sorte, peut être aussi articulée avec d'autres bulles de manière à pouvoir avoir un espace assez conséquent. Quel est le principe architectural de cette carter ?
Ouais, le principe, c'est le dôme. Et en russe, dôme, ça veut dire maison, dôme. Et en français, dôme, ça veut dire un dôme, donc une demi-sphère, voilà. Et le principe de la carter, c'est tout simplement d'utiliser en fait la nature pour avoir un habitat qui tient sur lui-même. Et comme explique Evelyne, la dame qui a inventé le concept il y a 25 ans, et ben, quand on construit en rond, chaque force de la maison s'appuie sur chaque millimètre de la construction. Alors que si on construit en carré, bah forcément, il faut des fondations, il faut déstructurer le sol. Et du coup, énergétiquement, même, on casse quelque chose sur le terrain. Alors que là, on construit à même le sol. Et ce qui fait que la maison va respirer par en dessous, par les murs aussi, après par la suite, parce que la chaux et le chanvre, ça laisse passer l'air. Et ça permet un habitat pérenne et compostable sur le long terme. Et après, en termes d'architecture, il y a plein de possibilités, parce que tant qu'on n'a pas de structure, on est un peu, on va être sur des petites surfaces. Mais si on a une bonne grosse structure, mettons en bambou, comme ça a pu se faire à la Saline Royale d'Arc et Senans près de Besançon, là, en fait, il suffit d'avoir une structure. C'est du sur-mesure, quoi. On peut faire des trucs gigantesques, mais c'est pas non plus le but, en fait. De faire grand, c'est ce qui est beaucoup demandé, mais c'est pas le but. En fait, le but, c'est de faire ce dont on a besoin, pas plus. Pas se laisser aller à des extravagances qui parfois ne servent à rien, en fait. Juste habiter dans quelque chose qui nous ressemble aussi. Le but, c'est que chacun fasse sa maison à son image, pas qu'on copie ou qu'on copie sur le voisin. Le but, c'est de faire un truc qui nous ressemble et de créer, de sculpter sa propre maison avec ses propres mains aussi. Donc, c'est au goût de chacun.
Alors, l'implication, donc, c'est que plus la surface est grande, plus le dôme sera grand et haut.
C'est ça. C'est ça, en fait, en fonction de la surface qu'on a sur son terrain, en fonction de nous, en tant qu'être humain, quel espace, de combien d'espace on a besoin pour être bien chez soi, c'est vraiment à la carte, quoi. Après, en fonction aussi des moyens financiers, parce que une petite carter pour une personne, on va dire, ça va coûter dans les 3000 euros de matériaux. Après, la main d'œuvre, bien sûr, c'est ça qui est le plus cher, c'est le temps de construction. Mais bon, il faut faire des choix. Soit on s'achète une maison à 200 000 euros et on passe sa vie à la payer, soit on se construit sa propre maison, on achète juste les matériaux et on acquiert le savoir-faire pour la construire.
Le carter est catégorisé dans quel type de construction? Construction légère ou alors en dur?
Eh bien, alors en fait, tant que ça fait moins de 19 mètres carrés, 19,9 mètres carrés, je crois que c'est la législation, ça peut être considéré comme une sculpture ou une œuvre d'art. Mais il y a cette année, et ça c'est assez génial, c'est que les premiers permis de construire ont été obtenus par des gens en Lozère ou en Corrèze, je ne me rappelle plus, enfin dans un département français en tout cas. Et c'est pour des grosses structures, donc des grosses carters qui ont été acceptées sur un terrain non constructible. Donc tous les pays du Nord en tout cas encouragent leurs citoyens à construire, à devenir autosuffisants, à construire des maisons qui ont un bilan carbone neutre, voire négatif, hein, qui sont autosuffisantes sur le long terme. Et je pense qu'en France, ça commence à arriver. Il y a une effervescence de plein de gens qui veulent changer de mode de vie, de tester des nouvelles alternatives. Et là, apparemment, l'administration suit. Donc tant mieux, et que ça continue comme ça.
Les carters et la nature qui est en harmonie et en conjugaison avec l'humanité, les personnes qui y vivent. C'est ça que tu as voulu aussi mettre en avant dans ce film?
Oui, complètement. Ouais. Moi, le seul moment où je me sens vraiment en connexion totale avec la nature, c'est quand je croise le regard d'un animal sauvage, en fait. C'est là que je me rends compte que je suis vraiment allé loin dans l'histoire humaine, loin de tout ce sauvage, de cette origine, en fait, d'où on vient, qu'on est quand même des animaux à la base. Je veux dire, maintenant on est éduqués, mais je veux dire, avant on n'était pas comme ça. Et quand je croise quand on regarde dans les yeux un animal sauvage, il se passe un truc, c'est inexplicable, c'est juste de la... On est catapulté dans le temps, et puis ça nous remet face à nous-mêmes aussi. On se dit, on n'est pas grand-chose, quoi, dans ce monde. Et on a tendance à l'oublier. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à l'oublier de par le divertissement permanent, de par... voilà, on est quand même assailli par tous les côtés. Acheter ci, acheter ça, pensez pas trop. Voilà, non. Moi, maintenant, c'est... La nature, c'est vraiment un moyen pour moi de me déconnecter de ce monde qui va trop vite et qui court à sa perte et qui s'effondre en face de nos yeux, je veux dire, tous les jours. Et la nature, elle est toujours là, quoi. Elle sera toujours là. Et donc, voilà, je pense que... Il y a une intemporalité dans la nature qu'on ne pourra pas retrouver, en tout cas dans notre monde tel qu'on le construit actuellement. Ouais, il est en train de s'effondrer de toute façon, donc qui ne va pas durer longtemps.
D'ailleurs, le temps, quelle place a-t-il dans ce genre de lieu ?
Et ouais, c'est intéressant parce que dès qu'on est dans une ville, on a l'impression que tout va très très vite. Qu'on pense le temps en termes de minutes, de secondes, de... Et puis, dans ce genre de lieu, bah, au Carter, à Plomeur, en Bretagne, on se rend compte qu'en fait, on peut prendre le temps de faire les choses. Il suffit juste de changer nos habitudes, de nous remettre en question sur certaines, je dirais pas mauvaises, mais certaines habitudes qui peut-être gagneraient à être améliorées. Par exemple, ne pas dormir en connexion avec la Terre. Moi, pour l'avoir expérimenté, d'avoir dormi en connexion directe avec la Terre, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intense dans la régénération de nos cellules quand on est en contact avec la Terre. Après, scientifiquement, je ne saurais pas l'expliquer parce que je ne suis pas scientifique, mais en tant qu'être humain, je l'ai ressenti. De dormir sur la Terre, c'est sûr que ça te donne une énergie, mais qui t'as l'impression que tu renais, quoi, que tu te régénères en dormant. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller... marcher pieds nus sur la terre, non, c'est la nuit que ça se fait et c'est naturel, c'est pas besoin de le forcer, c'est voilà. Après, on peut mettre des planchers aussi dans les carters, mais le but du jeu, c'est quand même de dormir en connexion avec la terre qui nous nourrit, quoi. Comme ça, on s'en rappelle chaque nuit, on se réveille le matin, on remercie la terre de nous donner de l'air pour respirer, de nous donner de l'eau pour boire, des choses qui devraient être normales en fait, mais voilà, qui ont changé, je ne sais pas pourquoi. Mais...
Ce tournage a duré un an et demi. Hein. C'est le temps nécessaire pour vraiment ressentir ce type d'habitation.
Ouais, alors moi, ça fait 4 ans que j'ai fait un stage là-bas, donc ça fait 4 ans que je gamberge cette idée de, pas forcément de faire un film, mais de vivre autrement, et notamment en carter ou en habitat alternatif. Mais un an et demi, on va dire que pour un film, il faut, ouais, c'est clair qu'il faut au moins un an et demi, 2 ans avant de sortir quelque chose qui ait du sens. Parce que, ou alors, là en tout cas, moi je sens qu'il faut que je fasse une suite, quoi. Et même en un an et demi de tournage, je sens que j'ai pas tout dit, qu'il fallait pas tout dire en un film, qu'il fallait déjà tâter le terrain. Et puis je vois qu'il y a un engouement assez conséquent autour du film. On a passé les 400 000 vues sur une bande-annonce pour un film autoproduit. Ça commence à trouver écho. En tout cas, les gens sont en recherche de ce genre de solution pour l'avenir. Parce que je pense que beaucoup de gens sont concernés par l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et ça, je ne dis pas que c'est la solution avec un grand S, mais c'est une solution. Et qui a porté ses fruits, puisque ça fait quand même 25 ans qu'une femme... s'est penché sur la question avec des centaines de personnes qui sont passées par là et à qui ça a changé la vie de voir cette révolution humaine autour au-delà de l'architecture, de la construction, de l'alternatif. Il y a quelque chose en fait de beaucoup plus profond dans tout ça, quoi.
Tout à l'heure, tu disais que le coût pour une personne équivalait à peu près à 3000 euros d'investissement pour une carter. On dit une carter ?
Ouais, une carter. Ouais.
Une carter. Et donc, ce coût implique quel type d'achat de matériaux pour construire justement ces carters ?
Alors, pour construire une carter, il faut du chanvre. Donc, généralement, on achète ça en round-baleur de chanvre, comme les gros rounds de paille, mais de chanvre. Ça peut coûter, allez, grand maximum 200 euros. Après, il y a de la chaux. Donc voilà, si on prend un budget de 3000 euros, on se dit que 200 euros de chanvre, de la chaux, il y a des fenêtres. Mais ça, on peut faire de la récup. Le but à la base aussi, c'était de faire avec ce qui existait déjà. Il y a un Sky Dome aussi qui permet la connexion avec le ciel. Donc ça, ouais... du sable, de la chaux. Après, si on a un terrain avec de l'argile, par exemple, on peut faire 80% chaux, 20% argile. Apparemment, ça résiste mieux à tout ce qui est tremblement de terre, mouvement de terrain. Ça fortifie encore plus la carter. Et puis après, le reste, une fois qu'on a trempé le chanvre dans la chaux et l'eau et le sable, qu'on a fait son béton de chaux et tout ça, c'est la nature qui fait le reste. C'est l'air qui transforme le chanvre et chaux en pierre, en fait, avec le temps. C'est la carbonatation. Et sur le long terme, c'est compostable. Donc, c'est une maison qui ne va pas polluer, même quand elle va disparaître, quoi.
Donc, vous parliez de recyclage aussi, hein, de fenêtres, de menuiseries. Donc, c'est de l'économie circulaire également que vous pratiquez. Et vous êtes regardant pour la provenance du chanvre et de la chaux. C'est quel type de chaux? Il y a des particularités ou des préférences?
Ouais, c'est de la chaux hydraulique. Après, il n'y a pas 10 000 fournisseurs de chaux en France. Hein. Je ne vais pas le citer pour ne pas faire de la pub, mais voilà.
Oui, un grand financeur de guerre.
Ouais. Ouais, malheureusement, on ne peut pas toujours faire au mieux, mais ils n'ont pas trouvé encore de... En tout cas, le chanvre et chaux, ils n'ont pas trouvé mieux encore. Ils sont sur des recherches de mélanger la terre, de se retourner vers les anciens aussi, qui avaient des savoirs assez conséquents pour la construction, terre-paille et compagnie. Mais le chanvre et chaux, ils n'ont pas encore trouvé mieux. Mais ils sont en recherche permanente et ils admettent bien que c'est pas non plus idéal dans tous les types de terrains. Mais voilà, c'est selon, en fait, c'est au cas par cas, en fait. On peut pas faire des généralités. C'est en fonction des gens, de ce qu'ils veulent, de leur choix de vie. On force personne, en tout cas, à faire une carte.
Je sais pas si Saint-Astier existe toujours, ce fabricant de chaux.
Je crois, hein. Je crois que ouais. C'est toujours marqué sur les... Sur les sacs de chaux. Ouais.
Dans ce film intervient une personne, un forestier. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de cette personne?
Oui, Monsieur Zürcher, Ernst Zürcher, c'est un ingénieur forestier que j'ai rencontré du coup pour le film et qui est vraiment très 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 humble, qui est assez connu et qui voilà, c'est pas du tout le genre de personne qui va avoir la grosse tête juste parce qu'il est connu. Et il est très gentil, il m'a offert un témoignage précieux pour le film. C'est un spécialiste de la forêt. Donc dès que j'avais une question, ça sert à quoi? Pourquoi le chêne, il fait ci, il fait ça? Pourquoi? Il a réponse, il connaît la forêt comme sa poche, quoi. Et donc c'était important pour moi d'expliquer l'importance de la forêt sur la terre même, en fait, parce que ça va plus loin que juste la Bretagne ou la France. C'est que la forêt à l'échelle planétaire, c'est ce qui nous permet, en fait, de respirer, donc avec les océans. Mais la forêt joue quand même un rôle de poumon assez conséquent, donc ça me paraissait un peu primordial de trouver un spécialiste pour parler de ça, parce que la carter, c'est un habitat qui a sa place dans la forêt, parce qu'on la respecte au moment où on va pas raser la forêt et faire la carter, on va faire la carter où il y a une place dans la forêt. Donc c'est ça que je voulais montrer, c'est que la forêt, elle nous permet de respirer, donc on la respecte. Donc quand on construit sa maison, on fait attention à la forêt. Et le chanvre, ça a cet avantage de pousser en un an, alors que pour faire pousser une forêt, il faut 30 ans. Donc voilà, c'est faire des choix à un moment où les ressources s'épuisent, et choisir de construire plus petit, de vivre plus en harmonie avec la nature. Ça me paraît primordial, en fait, pour assurer un avenir serein à nos enfants, à nos petits-enfants.
Ici, ce qui est touchant, c'est qu'on ne proteste pas, en fait. On agit pour. Ici, c'est que des actes, en fait. C'est des actes et de la présence.
En tant que femme, ça me donne beaucoup de pouvoir de me dire que je suis capable de construire ma maison et de faire une immense sculpture, en fait, dans laquelle je peux vivre et où je peux faire beau. Si on est tous...
La faune ne va pas très bien, la flore non plus. Et donc je pense que nous, humains, on peut faire que tout le monde aille mieux. Donc j'aimerais bien qu'un grand géant qui me fasse une maison, la souris, je peux lui faire une petite maison. Depuis que je fais des petites maisons de souris, il n'y a pas de souris dans ma maison. Un confort d'une nouvelle abondance, quoi. Un confort qui n'abîme pas la planète.
La Terre vue comme organisme, Elle a besoin d'une ceinture forestière tropicale, équatoriale, pour la protéger contre l'impact solaire extrême au niveau équatorial. Et c'est ce qu'on vient de découvrir pour la forêt amazonienne. Elle a un rôle essentiel pour protéger la Terre contre cette irradiation solaire. Elle transforme cette énergie solaire en biomasse, en cycle de l'eau, forme des nuages, provoque des précipitations. Et on considère la forêt amazonienne actuellement et toute la ceinture équatoriale comme étant un cœur climatique de la Terre. Donc l'arbre, c'est un organe, la forêt, c'est un organisme et un organe. Et la Terre, c'est un organisme qu'il faut comprendre avec sa physiologie, avec ses énergies, avec ses métamorphoses. L'arbre pulse à plusieurs niveaux. Au niveau solaire, des saisons, au niveau lunaire, au niveau des fréquences du cerveau humain. Là, c'est les fréquences de Schumann. 7,8 pulsations par la seconde. Ce qu'on appelle aussi la fréquence de la Terre. Donc l'arbre pulse en synchronicité avec la Terre. Et l'homme peut se mettre en contact, en phase avec cet arbre pour se reconnecter à la Terre.
Je cherche toujours à aborder la quatrième dimension, le temps. Le temps est capital pour arriver à comprendre un lieu, une vie, et s'y plonger. Et on voit au départ Shanghai tout à fait embuée dans sa pollution. Et plus on avance vers le futur, plus on va trouver un air lumineux. On retrouve des structures telles qu'on peut en trouver dans l'ensemble du monde du vivant. Et on se balade dans la ville par les toitures, parce qu'en reprenant position dans les toitures, on regagne l'horizon. En ayant perdu l'horizon, en se promenant chaque fois au fond des rues, on a perdu aussi une manière de s'orienter, de comprendre la ville, de ressentir les choses intensément.
Ernst Zürcher, donc pratiquer quelle activité pour parler de la forêt?
Alors il est enseignant à l'université de Lausanne, il me semble, en Suisse. Et lui, il a étudié en fait les rythmes, l'influence par exemple des planètes sur les arbres. Il s'est rendu compte, enfin la science en tout cas s'est rendu compte que le chêne avait toujours été associé à Mars chez les Celtes, par exemple, et qu'en fait, le chêne, en effet, pulse en fonction de Mars et de la... Enfin, la science est en train de confirmer ce que les anciens nous disent depuis des millénaires, en fait. Et sauf que tant que la science ne l'a pas dit, on n'y croit pas. C'est comme le coup de marcher sur la Terre, ça a des effets anti-inflammatoires, ça a des effets bénéfiques sur la santé humaine, mais je veux dire... Il a fallu qu'on attende que la science nous le dise pour confirmer ça, quoi. Le fait de marcher pieds nus sur la Terre, on devrait pas... Enfin, je comprends pas pourquoi il faut qu'on attende que la science nous confirme les choses pour que ce soit vrai. Marcher sur Terre, je veux dire, c'est nos origines. À la base, on n'avait pas de chaussures, quand même. On marchait pieds nus. On était en connexion avec cette planète, et c'est bien pour ça qu'on a pu... apprendre autant sur les plantes, sur la nature, sur notre environnement. Et le fait d'avoir eu des chaussures en caoutchouc, ça nous a complètement coupé du champ magnétique et du champ électrique terrestre. Donc ça nous a amené une tripotée de maladies dont on ne sait pas d'où ça vient, mais tout simplement de notre déconnexion à notre environnement premier, en fait. Et je veux dire, il faut attendre que la science nous l'explique pour qu'on y croit. Et c'est pour ça que dans mon film, il y a un scientifique. C'est pour légitimer, en fait, des choses logiques qu'il y a juste besoin de ressentir avec le cœur. Mais aujourd'hui, on est obligé de prouver ça par des études, par machin. Mais je veux dire, tu t'expérimentes un mois de marcher pieds nus, tu vois bien que t'as pas besoin d'un scientifique qui te confirme que ça va mieux et que... Si tu as des inflammations, des courbatures, des douleurs à tels endroits, elles disparaissent. Et ça, je veux dire, c'est connu par les anciens depuis longtemps. Les bains de terre, les bains d'argile. On sait très bien que le contact avec la terre est bénéfique pour les humains. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une volonté il y a des intérêts financiers qui cachent ce genre d'informations. Ou je ne sais pas, qui veulent nous vendre des médicaments qui traiteront que les effets physiques, mais rien de profond. Enfin... Je sais pas si c'est une histoire d'argent, mais en tout cas, pour aller mieux, c'est vrai que le contact direct avec la Terre, il y a pas plus gratuit et plus efficace. Je vois pas, voilà, avec les plantes, tout ça, c'est la médecine qui devrait, voilà, on devrait aller voir le médecin. Ça va pas, bah allez marcher pieds nus sur la terre. Prenez-vous une tisane de telle plante, voilà, prenez pas 200 médicaments qui vont vous donner beaucoup plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Je sais pas, faut changer notre regard sur le monde en tout cas et nous demander à chaque fois qu'on va chez le médecin ou qu'on entre dans une pharmacie, est-ce que ces gens-là veulent vraiment mon bien ou est-ce qu'ils servent des intérêts plus grands en fait? Et est-ce que eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils vendent aux gens? Enfin, parfois comme saloperie. Et quand on voit il y a des scandales sanitaires tous les ans sur des médicaments, on se rend bien compte que la synthèse ne remplacera jamais ce que nous donne Mère Nature, quoi. Donc qu'on se reconnecte tout de suite et qu'on oublie tout ça et que voilà, c'est une erreur, ben on passe à autre chose et puis voilà.
Ce regard, c'est l'acquisition de lecture, d'une formation aussi que tu as eue pour pratiquer ce style de vie et puis ce film d'ailleurs que tu proposes.
Ouais, je pense que je suis en recherche permanente en fait de réponses. En tout cas, je sais pas si tout le monde l'est, mais moi, ça fait longtemps que je suis sur un chemin où je me pose des questions et je cherche des réponses. Et la santé, c'est quand même...
Tu pourrais citer une question, par exemple ?
Une question par rapport à la santé, par exemple, pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus malades ? Parce qu'ils sont complètement déconnectés de leur environnement naturel, quoi, de la nature. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas, je ne vais pas incriminer un système où, voilà, il faut aussi... On ne peut pas toujours jeter la pierre à quelqu'un ou à nos ancêtres. Voilà, ils ont fait comme ils ont pu aussi. Puis, mais voilà, se poser la question, pourquoi il y a autant de mal-être dans la société aussi ? Pourquoi on n'est pas plus heureux ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a autant de choses qui ne vont pas bien, quoi.
D'après toi, à quand remonte ce dérèglement de cette communion avec la Terre ?
Je pense qu'on n'a jamais été en communion totale, je veux dire. Enfin, je ne sais pas si on l'a été. Je n'ai pas en tout cas la réponse. Mais je sais que de toute façon, à partir du moment où il y a plus de 30 humains sur un endroit, il va forcément y avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour minimiser notre impact sur notre environnement, parce que c'est cet environnement qui nous permet de vivre. J'ai pas les réponses à tout, mais il faut juste se dire à chaque fois que je fais une action, est-ce que cette action va avoir une incidence négative ou positive sur l'environnement dans lequel je vis ? Et si elle a une incidence négative, elle va forcément en avoir une, pas forcément sur ma génération, mais sur une génération qui va voilà, en pâtir des mauvais choix de la nôtre. Et beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'on est la dernière génération à pouvoir changer vraiment le cours des choses, que c'est maintenant et que nos enfants, ils nous diront « mais vous avez rien fait ». Moi, j'ai une fille maintenant et j'ai pas envie que ma fille me dise « mais papa, t'as rien fait pour me sauver, enfin pour sauver l'humanité ou au moins essayer quoi ». Donc c'est pour ça que je fais ce genre de film, c'est aussi pour essayer de, à mon échelle, de sauver ce qui peut l'être, quoi.
Ce film, est-ce que tu as eu des échos justement par les milieux de distribution ou les médias ?
Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. J'ai été beaucoup aidé aussi par tout ce qui est permaculture, tous les mouvements alternatifs qui fleurissent partout, parce qu'il n'y a plus le choix. Maintenant, c'est l'urgence et on voit bien que les politiques ils sont complètement déconnectés de la réalité. Je veux dire, eux, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent à des projets comme la Montagne d'Or et
qui est quand même une autre réalité.
Ah ouais, c'est complètement... Bah, c'est la réalité de l'argent, des banquiers. Mais eux, ils en ont... pas grand chose à faire de l'environnement et de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Ils seraient prêts, je pense, ils ont déjà privatisé l'eau, ils seraient prêts à privatiser l'air bientôt si l'air est... Je pense pas qu'il faille attendre que les politiques se bougent parce qu'ils sont trop corrompus, ils sont dans un système trop corrompu par l'argent, il y a trop d'intérêts financiers en jeu. Je pense qu'il faut qu'on... C'est à nous, les citoyens, de reprendre le pouvoir. Et on voit bien ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Je cautionne pas tout ce qui se passe, mais il y a quand même une effervescence de... Il y a un goût de révolution derrière tout ça, et de révolution intérieure aussi, des gens qui se rendent compte que, en fait, mais j'ai plus envie de bosser pour payer mes factures, je veux vivre dignement. Bah, j'ai envie de leur dire, alors rapprochez-vous de la nature, parce que la nature, elle ne vous fera pas payer. Il y a énormément de gratuité dans la nature, quoi. Les médicaments sont gratuits, l'air est gratuit, l'eau est gratuite, on en est composé à 80%, gratuite, pardon. Il faut qu'on réapprenne à vivre aussi sans argent, je pense. Ou alors que l'argent soit redistribué normalement, quoi. au moins.
Penses-tu qu'il y ait suffisamment de place dans la nature pour accueillir beaucoup de monde ?
Ben moi, je pense que... Tu vois, il y a souvent un argument qui est martelé dans les médias, qui est de dire « oui, on ne pourra pas nourrir tout le monde ». Alors que tu vois que 50% de déchets alimentaires, c'est du gaspillage. Donc ça veut dire qu'on pourrait nourrir deux fois plus de personnes actuellement, mais on en gaspille la moitié. Donc je pense que ça, ce côté de dire ouais, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, bien sûr qu'il ne faut pas faire 10 enfants par famille, je ne dis pas ça, mais je suis sûr que si on redistribue, c'est juste une histoire de redistribution des richesses et de la matière, en fait. Si on arrête de concentrer la matière et les richesses sur 1% de la planète qui exploite 99% des humains, il suffit de renverser ce truc là mais il faut s'unir, il faut trouver des solutions, proposer des solutions, mais ça, si ça se fait pas, je pense que c'est la fin. Donc il faut tout de suite qu'on se serre les coudes et qu'on se dise au-delà de nos différences, au-delà du fait qu'on ne pense pas tout pareil, il faut quand même qu'on se dise qu'on a un ennemi commun. C'est ceux qui détruisent la planète. Et le but du jeu, c'est quand même de... Si on veut rester, après, il y en a peut-être qui veulent s'en aller, mais pour ceux qui veulent rester, au moins, sur cette Terre, qu'on la respecte et qu'on arrête de la détruire dans nos actions quotidiennes. Qu'on se pose des questions, quoi. Au moins qu'on se remette en question. Chacun à notre échelle, quoi.
As-tu entendu parler d'Aurélien Barreau ? Non.
Oui, l'astrophysicien, oui. J'adore.
Est-ce que ça rejoint un peu son discours aussi, tes préoccupations ?
Complètement. L'effondrement de la biodiversité, tout ça, moi je suis hyper concerné par ça. Et c'est pour ça qu'elle a une place, la biodiversité, importante dans mes films. C'est pour dire ça, c'est ce qu'on a de plus précieux. On ne pourra pas... j'aime bien aussi citer Idriss Aberkane. Tu vois qui c'est ? C'est un super gars aussi. Et lui, il dit il faut qu'on arrive à... Au lieu d'aller coloniser Mars, il faut qu'on arrive à créer la vie sur Mars. C'est pas le but du jeu, c'est pas de coloniser une Terre, c'est d'arriver à créer de la biodiversité. Et je pense que dans 50 ans, la biodiversité vaudra beaucoup plus cher que l'or et compagnie. Donc le but du jeu, c'est quand même de préserver ce qui peut encore l'être. Et on a le temps, je pense, pour changer tout ça. Si on s'y prend, en tout cas, si les politiques nous aidaient, on irait beaucoup plus vite, parce que les citoyens, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent à leur échelle. Mais donc se tourner vers le zéro déchet, manger local, manger bio, tout ça. Mais du vrai bio, je veux dire, pas du bio, tu vois, qui vient de je sais pas où et qui a été fait dans des conditions en monoculture. Du vrai bio, quoi, de l'agroforesterie. De la permaculture, des jardins jungles. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça. Ça dépend de notre survie, quoi. Donc oui, Aurélien Barreau, je suis complètement dans le même discours que lui. Sauf que la différence, c'est que j'aime bien quand même parler des solutions, parce que les problèmes, on sait très bien qu'il y en a plein, mais des solutions, il faut les mettre en lumière, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour dire, regardez, il n'y a pas que de l'obscurité, il y a aussi un petit peu de lumière. Il faut essayer de tendre vers ce genre de mode de vie qui nous sauveront, quoi.
À l'heure actuelle, pour remédier à cet enjeu de l'écologie et de la planète même, il y a forcément bouleversement à attendre pour changer les habitudes. C'est pour ça que je cite Aurélien Barreau, puisque ça ne se ferait pas sans violence, pas forcément physique, mais mentale, je pense. Il y a vraiment de grands changements à faire pour chacun de soi, dans son mode d'existence. Voilà. Est-ce que tu penses que les gens peuvent s'adapter assez rapidement à ce type de changement ou de bouleversement de la vie ?
Ouais, je pense que si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a quand même su s'adapter. Je connais pas l'histoire de l'humanité, mais enfin, je veux dire, dans tous les détails, parce que moi, je suis là depuis pas si longtemps. j'ai 25 ans, mais en attendant, dans mon ADN, il y a toute l'histoire de l'humanité qui est là. En moi, je sais qu'il y a toute l'histoire de la vie qui vit. Et je me dis, ben, moi, je suis juste une continuité de cette cellule qui, à la base, s'est divisée et s'est reproduite. Et puis, ça a donné... voilà, je ne sais pas d'où on vient exactement. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais je sais que je suis là, que je parle aujourd'hui. Et du coup, que j'ai quand même une histoire en moi qui me dépasse. Et à nous d'écrire la suite, en fait.
Pour moi et plus que moi, qu'est-ce que tu veux signifier dans cet intitulé ?
Pour moi, alors, c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, et c'est Evelyne qui m'a en tout cas fait ouvrir les yeux sur cette philosophie-là, c'est que chaque fois que je fais une action, il faut que je me demande si elle va profiter aux autres aussi. C'est-à-dire, si je vais, je sais pas moi, je prends un exemple.
Planter un arbre fruitier, par exemple.
Voilà, si je vais planter un arbre, c'est évident que dans 20, 40 ans, mes enfants ou les enfants de quelqu'un d'autre, ils auront accès à ce que j'aurais fait. Donc voilà, se dire, est-ce que mon action aujourd'hui de prendre ma voiture pour aller, je sais pas moi, au supermarché qui est à 1 km, bah, je peux prendre mon vélo, bah, c'est des choses toutes bêtes en fait. C'est juste remettre en question les choses qui sont devenues normales et en fait qui peut-être mériteraient d'être revues, voilà. Mais je ne cherche pas à forcer qui que ce soit à changer de mode de vie. C'est vraiment, il faut que ça vienne des gens, en fait. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. On ne peut pas forcer les gens à changer. Il faut qu'ils en aient envie, en fait. Et c'est de cette envie-là que naîtra un monde nouveau, quoi.
On peut parler de La Vendée Rose, hein, ton précédent film qui était sur les cueilleurs de lavande. Est-ce que tu as éprouvé la même émotion pour ce tournage de ce court-métrage ?
Je pense que j'ai éprouvé une émotion bien différente parce que déjà, c'était pas mon premier film. Et c'était compliqué parce que moi, bon, il se passait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis devenu père en même temps que j'ai mis au monde ce film. Du coup, il y a eu toute une mise en abîme de la création. Et bien sûr, j'ai ressenti énormément d'émotions quand les gens parlaient, témoignaient de leur expérience, de ce que ça leur avait apporté, de savoir construire leur maison avec leurs mains. C'est totalement différent, en fait. C'est toujours le même rapport à la nature, de la respecter, de reconnaître tout ce qu'elle nous apporte, toutes ses richesses. Mais là, c'est plus dans l'ancrage, en fait. C'est moins dans la médecine, même s'il y a toujours cette partie santé qui est importante. C'est moins dans... On ne va pas chercher des plantes dans la montagne. On habite carrément avec notre environnement. Donc, ce serait presque, si je devais refaire à La Vendée Rose avec Carter, ce serait, je fais ma maison et je vis avec tout ce que la nature m'offre autour. Le plus localement possible, quoi.
Est-ce qu'il y a des auteurs ou des essayistes ou des penseurs qui ont traité de la forêt et de la vie proche de la terre ? Oh, est-ce, oui, que vous avez des références à ce niveau-là ? Je parle de toi et d'autres qui sont pour ce mode de vie.
Moi, je suis beaucoup film. Je suis beaucoup. J'adore apprendre avec la vidéo. Après, bien sûr, il y a beaucoup de bouquins. Il y a Dans la forêt de Jeanne, je ne sais plus son nom de famille, mais il y a plein de bouquins qui m'ont beaucoup apporté sur le rapport surtout de nos ancêtres à la forêt et à la nature. Il y a un bouquin aussi de Thierry Gigourel, qui est un auteur breton, et qui, lui, revient sur tout ce que toute la symbolique de la nature, en fait, chez nos ancêtres, chez les Celtes. Et il dit que la forêt, c'est un lieu de naissance, de renaissance, de connaissance, de reconnexion avec nous-mêmes. C'est un lieu de refuge aussi. Et ça nous mène tout droit, en fait, à nos origines. La forêt, c'est quand même ce qui nous a permis de vivre... de survivre en tout cas pendant des millénaires et encore actuellement, je veux dire, on en dépend. Donc il faut juste se dire, on dépend de ça, bah, il faut en prendre soin, parce que si on n'en a plus, on n'est plus là, quoi. Voilà, juste prendre cette petite prise de conscience, de se dire, ou simplement de remercier, en fait, de remercier chaque jour. Moi, tous les matins, je me lève, je dis merci, je suis encore là. Ça veut dire, on me laisse encore l'opportunité de changer les choses, de créer quelque chose de meilleur. Et c'est une chance inouïe, en fait. Mais je pense qu'on s'en rend peut-être même plus compte. En tout cas, moi, je l'avais oublié à un moment, que j'avais de la chance d'exister, d'être sur Terre, qu'on me donnait ce temps, quoi. Donc ce temps, il faut en faire quelque chose. Et il faut en faire quelque chose pour soi et pour plus que soi. Donc dans l'idéal, de transmettre aux autres ce qu'on a appris... de transmettre des valeurs qui nous permettraient de vivre mieux, de vivre plus heureux. Moi, tout ce que je souhaite aux gens, en fait, c'est qu'ils vivent heureux, et puis c'est tout, en fait.
Ce film est disponible par quel moyen actuellement, et est-ce qu'il est prévu prochainement une projection ?
Alors, la plus proche d'ici, ça va être à Saint-Rémy en Provence, le 22 avril. Sinon, il y a des projections, tout est dispo sur ma page Facebook Nikita Guezel. Ou alors sur ma chaîne YouTube si les gens n'ont pas Facebook, ou bien sur Vimeo aussi. Le film est dispo sur Vimeo à la demande, quoi. Donc à partir de 5€ on peut le louer, à partir de 10€ on peut l'acheter, 25€ on peut avoir le DVD avec les frais de port compris. Et donc voilà, il est disponible sur Vimeo, hein. Si les gens veulent voir le film, c'est sur Vimeo. Il faut s'inscrire et voilà, c'est tout simple, en fait, pour le regarder.
Combien coûte de faire un film ?
Ce film-là, il a dû me coûter à peu près 12 000 euros. Si je me compte, moi, mes heures de montage et tout ça. Mais grâce au financement participatif que j'ai organisé, j'ai quand même pu récolter 7 200 euros. Et puis les gens qui continuent d'acheter le film, en fait, ils me permettent de me reprendre du matos pour faire quelque chose de meilleure qualité pour le prochain film. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est que grâce à ce financement, j'ai pu déjà rentrer dans mes frais, donc c'est génial. Mais je ne me suis pas payé, en fait. Et d'ailleurs, ça ne me dérange pas, en fait, de ne pas me payer, parce que je ne fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais ça par passion. Donc les heures de montage, si je devais les compter, bien sûr que je travaille à perte. Mais bon, je travaille pas, je crée, donc ça me dérange pas, mais j'aime pas le mot travail, j'aime pas l'étymologie.
Une petite idée pour le prochain film ?
Ouais, totalement, je suis déjà en train de... Alors je tourne une suite à celui-là, Pour moi et plus que moi, je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais on est déjà sur une suite parce qu'on a tellement d'autres choses à dire et d'autres choses à montrer, et puis l'histoire avance, quoi, tellement vite... Et sinon, j'ai un projet que j'avais commencé déjà il y a 3 ans, avec des guérisseurs, en fait, un peu partout dans le monde. Comment guérir son âme quand on est dans cette société de machines à laver qui nous brainwash dans tous les sens, qui nous empêche de penser par nous-mêmes, et de comment la nature, en fait, nous permet de retrouver ce temps pour penser, pour nous poser les bonnes questions, pour nous recentrer sur nous-mêmes, pour donc ça va être avec des guérisseurs un peu partout dans le monde. Ça va être je sais que ça va être sûrement au Pérou, avec des guérisseurs qui travaillent avec l'ayahuasca, avec plein d'autres plantes, mais c'est celle qui parle le plus généralement. Il va y avoir aussi des guérisseurs bretons qui travaillent, eux, qui guérissent seulement avec les mains. D'autres, ça va être pourquoi pas par l'hypnose. Enfin, ça va se faire en fonction de mes rencontres aussi. Ça se fait beaucoup avec les gens qui viennent sur mon chemin ou qu'on m'apporte sur mon chemin. Et voilà, donc ça va se faire. Je pense que d'ici 2 ans, il y aura un autre film, quoi.
Nikita Gwezel, je te remercie donc d'être venu sur RDWA pour nous présenter ton dernier film, Pour moi et plus que moi. Et je te souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, Yves.
Au revoir aussi.
Sirkat, siritivät, vain pala huutaa sirkat. 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 Siritivät. Vain pala huutaa sirkat, siritivät, 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 vain pala huutaa sirkat. 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 We'll be right back.